Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la libre pensée. Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la libre pensée. Auditrice, auditeur, bonjour. Je suis David Gozlan et nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle de la libre pensée avec aujourd'hui Jean Ziegler. Bonjour monsieur Ziegler.
Bonjour.
Et Michel Godichaud, membre de la commission administrative nationale de la Fédération nationale de la libre pensée, qui a bien voulu interroger M. Ziegler.
Bonjour Michel. David, bonjour M. Ziegler.
Merci de l'invitation.
Alors, je vais vous interroger sur une publication de l'année dernière, mais qui est toujours en diffusion, un livre qui, à mon avis, convient bien pour l'été et pour les grands-parents qui reçoivent leurs petits-enfants. Le capitalisme expliqué à ma petite fille en espérant qu'elle en verra la fin, aux éditions du Seuil. Votre petit livre qui porte en exergue une citation de Bertolt Brecht, l'obéissance pour l'homme est le fléau majeur, ne pouvait qu'attirer l'attention de la libre pensée. À votre petite fille qui questionne, donc le capitalisme a du bon, vous répondez, l'ordre cannibale du monde que le capitalisme a créé doit être radicalement détruit, mais les formidables conquêtes de la science et de la technologie doivent non seulement être préservées, mais aussi potentialisées. Or, il semble qu'une partie du discours dominant nous susurre non seulement que le capitalisme est désormais définitivement installé, mais encore que la science et la technologie elles-mêmes sont devenues suspectes. Qu'en pensez-vous ?
Vous avez tout à fait raison, il y a un paradoxe. Le mode de production capitaliste, et certainement parmi tous les modes de production qui sont succédés dans le temps, celui qui est le plus inventif, le plus dynamique, le plus créateur de richesses de produits, le capitalisme, ce mode de production, est d'une vitalité tout à fait extraordinaire. Dans la chimie paloise, par exemple, un nouveau médicament né tous les 3 mois, à Wall Street, un nouvel instrument financier tous les mois, des milliers de satellites qui tournent autour de la Terre dans l'atmosphère, une extraordinaire capacité productrice, une extraordinaire maîtrise des différentes révolutions scientifiques, technologiques et électroniques qui se sont succédées. Ça, c'est vrai, c'est cette vitalité du capitalisme qui parle. Mais d'autre part, ce capitalisme-là, ce mode de production, qui est une vitalité formidable, je le répète, a créé un ordre social du monde que j'appelle et qui est un ordre cannibale. Je m'explique un peu schématiquement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'année dernière, les 500 banques mondiales, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, toutes disciplines confondues, de la banque à l'industrie de services, etc., les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut, donc de toutes les richesses produites en une année sur la planète. Elles savent faire beaucoup de choses, je viens de le dire, mais elles échappent à tout contrôle social, parlementaire, étatique ou interétatique. Elles ont un pouvoir militaire, économique, politique, financier, comme jamais un roi, jamais un empereur, jamais un pape n'a eu dans l'histoire de l'humanité. Elles ont un seul principe, c'est la stratégie de la maximalisation des profits dans le temps le plus court et pratiquement n'importe quel prix humain. Et cette dictature de l'oligarchie, du capital financier globalisé qui s'impose aux États les plus puissants dans mon livre « Le capitalisme exclut à ma petite fille en espérant qu'elle la verra à la fin ». Je donne des exemples très très précis que je pourrais répéter mais on n'a pas le temps, qui montrent comment cette oligarchie dicte sa loi encore une fois, aux États les plus puissants de la Terre, les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Chine, etc., etc. L'ordre cannibale qu'elle a créé, qui doit être détruit radicalement, et mon livre montre comment ça devait se faire. Je vous donne quelques chiffres très rapidement. Tous les 5 secondes, un enfant sous de 10 ans meurt de faim sur cette planète.
Justement, je voulais vous interroger là-dessus. Vous parlez du Guatemala, où selon l'UNICEF, 112 000 enfants de moins de 10 ans sont morts de faim en 2015. Et quand on voit la détermination des autorités américaines ou européennes à s'en prendre aux survivants, pour les empêcher de se réfugier et de sauver leur vie, on a un peu, et quand on est à l'ONU, une espèce de sentiment d'impuissance.
J'ai été pendant 8 ans rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, donc je décris ma mission dans ce livre, ma mission au Guatemala. Avant d'arriver à cet exemple précieux, je vais faire quelques indications plus générales. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. Et le même World Food Report, le même rapport de l'FAO qui donne le chiffre des victimes qui est contesté par personne, dit que l'humanité pourrait nourrir normalement, si la distribution était normativement réglée et ne dépendait pas du pouvoir d'achat de chaque individu, que l'humanité pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains. L'économie, l'agriculture mondiale pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes 7,3 milliards. Donc presque le double de l'humanité pourrait être nourrie normalement si, encore une fois, il y avait une distribution normative selon la justice, selon la loi, et non pas selon le pouvoir d'achat. Donc il y a le massacre quotidien de la faim. Il y a tous les 4 minutes, quelqu'un perd la vue par manque de vitamine A. 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès régulier à l'eau potable non nocif, et des centaines de millions d'êtres humains dans l'hémisphère sud, dans les pays de l'hémisphère sud, meurent tous les ans de maladies, d'épidémies, depuis longtemps vaincues par la médecine, mais où les victimes n'ont simplement pas l'argent nécessaire pour accéder aux médicaments qui existent et qui pourraient les guérir. Donc l'ordre cannibale du monde, qui s'aggrave d'ailleurs parce que l'inégalité créée entre l'oligarchie et les peuples souffrants, cette inégalité augmente rapidement. L'année dernière, décembre 2018, le rapport d'Oxfam, pour un exemple, les 36 milliardaires les plus riches du monde ont eu autant de fortune que 4,7 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc cet ordre du monde doit être détruit. Comme tout, souvent quand je fais des conférences sur le livre, il a été traduit dans 14 langues, je fais des conférences à New York, à Berlin, à Madrid, à Paris, etc. Il y a quelqu'un qui lève la main et dit: vous dites qu'il y a une vitalité productrice dans le capitalisme, pourquoi pas l'humaniser? Pourquoi pas essayer de le réformer, etc. C'est totalement impossible, il faut détruire le capitalisme avant qu'il nous détruise et qu'il détruise la planète. Ce que les jeunes enfants maintenant, ou adolescents, qui parlent centaines de milliers tous les vendredis, vont dans la rue, dans les villes occidentales, ont très très bien compris. Il faut détruire le capitalisme, on ne peut pas le réformer, l'humaniser. Aucun système d'oppression précédent dans l'histoire, ni l'esclavage, ni la société esclavagiste, ni la société coloniale, ni la société féodale qui était abattue par les insurgés français à la fin du XVIIIe siècle, a pu être améliorée. Le capitalisme, ou bien nous le détruisons maintenant, et je dirai tout à l'heure de quelle façon on peut penser que ça peut arriver, ou il nous détruit, y compris notre planète. Et ça, les jeunes, je le répète, l'ont formidablement compris. Karl Marx a dit: le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe.
Ce qui est marrant, c'est que c'était ma question suivante, c'est-à-dire que je trouve cette citation de Marx, que je ne connaissais pas, parce qu'elle est dans sa correspondance
avec Wedemeyer, vous avez raison, c'est la lettre à Joseph Wedemeyer.
Et le révolutionnaire doit être capable d'entendre l'herbe pousser. Et vous dites à la bonne petite fille, je te le garantis, l'herbe pousse.
Ah, formidable.
Ce qui vous désigne comme quelqu'un d'optimiste sur la possibilité, puisque vous entendez l'herbe pousser, l'herbe de l'herbe donc.
C'est-à-dire, il y a quelque chose. Bah, moi, je suis sociologue d'origine, je raisonne en sociologue. Il y a l'école de Francfort, Horkheim, Benjamin, Adorno, Marcus. On sait théorique, à un moment donné, juste, il y a une double existence de chacun de nous. On a presque terminé là.
Non, continuez, monsieur Ziegler.
Dans nous, Adorno dit, il y a la justice effectivement vécue et la justice que la conscience revendique, que nous portons en nous comme horizon, comme utopie. Et puis il y a la justice qui est effectivement empiriquement vécue. Or, cette première justice empiriquement vécue est totalement régressive. Pensez à la Syrie, pensez à la paralysie de l'ONU, pensez au massacre en Syrie, au Yémen. Je suis dans la commission d'enquête du Yémen du Conseil des droits de l'homme, parce que maintenant je suis vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Pensez à la faim, je l'ai dit tout à l'heure, à la misère qui tue des centaines de milliers de personnes.
Justement,
pensez à ça. Mais il y a l'autre justice qui fait des progrès extraordinaires, ce que la conscience revendique comme être justice. Il y a une augmentation de cette utopie qui nous habite. Alors Sartre a dit...
C'est ce qui vous rend optimiste.
Oui, voilà. Ce qui me rend profondément optimiste, pour une raison très simple. Sartre parle de l'incarnation. À des moments déterminés dans l'histoire, l'idée... C'est un moment très mystérieux, mais il se produit, et il se produira maintenant, surtout on est proche, l'incarnation. À quelles conditions une idée, une utopie que nous portons
devient
en nous,
force matérielle.
Vous avez tout à fait raison, devient-elle force matérielle, force historique, modificatrice de réalité. Ça s'est passé le 14 juillet 1789, etc. etc. Et ça va, on est tout proche, on est au seuil de cette incarnation, de cette insurrection des consciences. Et quand ça se passe, eh bien, aucune oligarchie au monde, aucune violence répressive aussi, aucune aliénation aussi puissante qu'elle soit, puisque l'idéologie néolibérale est un obscurantisme total qui pétonne notre conscience collective, qui veut nous faire croire que l'homme n'est plus l'auteur de son histoire, mais que ce sont les forces du marché, et les forces du marché obéiraient à des lois de la nature. C'est un obscurantisme total, pour prendre le mot de Pierre Bourdieu, un obscurantisme qui a bétonné la conscience collective, qui a désarmé les gens. Or, la vraie conscience que nous portons à nous, c'est la conscience de l'identité. Moi, je suis l'autre, l'autre est moi. Ou Emmanuel Kant qui dit l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi, la conscience de l'identité. Si un chien voit un chien qui est battu, rien ne se passe. Si un homme, quelle que soit son nationalité, la couleur de sa peau, son âge, etc., voit un enfant qui est martyrisé devant lui, battu, torturé devant lui, quelque chose en lui s'effondre. L'homme, l'être humain, est le seul vertébré, le seul être sur cette planète qui a une conscience de l'identité. Il s'agit de la restituer. Et c'est ce que fait, et ça c'est l'espérance, la société civile. Les partis, les structures étatiques, la lutte pour le pouvoir d'État, ça devient totalement secondaire et peu important au moment où l'adversaire n'est plus la classe dirigeante d'un État, mais une oligarchie mondiale très très réduite, mais infiniment puissante, qui impose sa dictature à la planète, à l'humanité entière, à donc à tous les États, toutes les sociétés. Et la société civile planétaire, c'est-à-dire l'ensemble de ces mouvements multiples, la Via Campesina, Amnesty, Greenpeace, le mouvement des femmes, le mouvement des jeunes contre la destruction pour le climat et contre la destruction de la planète, les gilets jaunes en France, des mouvements magnifiques qui sont sur des fronts tout à fait différents, lutte contre cet ordre cannibale. Et Che Guevara a dit « Les murs les plus puissants tombent par des fissures. » Et des fissures apparaissent partout. Et c'est une nouvelle société civile planétaire porte l'espoir du monde.
Cette société civile dont vous parlez, elle a toujours existé. On la retrouve aussi à travers les partis, les syndicats, même si ce n'est pas simplement l'objet du pouvoir.
Oui. Elle s'est renforcée formidablement. Elle devient le seul recours maintenant, puisque le pouvoir d'État n'est plus un enjeu. Vous mettez Trump, vous mettez Obama pour prendre la puissance la plus étatique, la plus puissante de la planète, ou Clinton, tous ces présidents successifs, et je le prouve dans mon livre, Le capitalisme expliqué à ma petite fille, en espérant qu'il amènera à la fin, l'oligarchie exerce une dictature mondiale qui surdétermine les politiques de tous les gouvernements du monde. Et le seul adversaire qu'a cette dictature maintenant, c'est la société civile qui grandit, qui se renforce. Chaque instant, les gilets jaunes, tout ce qui vient. Ce n'est pas un comité central, ce n'est pas une ligne de parti, ce n'est rien du tout. Le mouvement de la libre pensée, qui est radicalement critique face à cette conscience collective totalement bétonnée, c'est l'impératif catégorique qui est en nous qui lui donne naissance.
Monsieur Ziegler,
l'espérance est là.
On pourrait continuer longtemps, malheureusement, on est un peu...
Vous ne voulez pas comprendre.
On demandera une heure d'émission à France Culture. Pour l'instant, je vais répéter le titre du livre, « Le capitalisme expliqué à ma petite fille en espérant qu'elle en verra la fin ».
Moi aussi, je voudrais voir la fin, rapidement.
Oh, mais j'en serais ravi.
Rapidement.
Que c'est en vente au prix de 9 euros, entre autres, à la librairie de la Libre Pensée sur www.fnlp.fr, et que nous aurons certainement, Jean Ziegler et nous-mêmes, l'occasion de nous reparler de nouveau. Au revoir, chers auditeurs. David.
Auditrices, auditeurs, nous vous retrouvons le mois prochain.